Oui, je vous remercie beaucoup d'abord de m'avoir invité et puis de cet accueil si chaleureux et si intéressant et drôle qu'on aurait continué à bavarder sans faire cette conférence quand même pour laquelle je suis ici parmi vous et avec vous. Et je vous remercie aussi d'être venu m'écouter. Alors, ce n'est pas la liberté dans le Quichotte qui m'a été proposée, c'est la liberté de Don Quichotte. Et j'ai écrit un mail pour demander si c'était vraiment le titre. Alors, il faut le dire d'emblée, et M. Caillé a déjà fait une allusion, la liberté de Don Quichotte est totalement problématique et paradoxale. Je vais prendre un exemple pour l'abandonner ensuite, qui est la question religieuse. La liberté de Don Quichotte n'affecte en aucune manière les questions théologiques. Et en matière de théologie, Don Quichotte serait plutôt réactionnaire et Sancho bien plus moderne et tolérant. Dans la deuxième partie du Quichotte, 1615 au chapitre 8, Sancho pose une question cruciale à Don Quichotte. Que deviennent les grands philosophes, les historiens, les poètes de l'Antiquité après leur mort? Don Quichotte lui répond que comme ils sont païens, ils sont damnés pour l'éternité. S'ils sont chrétiens, ils vont soit au purgatoire, soit au paradis. On ne peut être plus prisonnier de l'ignorance et des préjugés les moins éclairés. En effet, on le sait, depuis les premiers temps du christianisme, ce problème s'était posé aux théologiens et à la Renaissance, il ne faisait pas de doute que ces illustres figures du savoir, de la sagesse, de la vertu devaient être sauvées. Et par exemple, Érasme sanctifie Socrate et Cicéron. Quant à Platon, il est souvent considéré comme précurseur du christianisme et de tout ce qui a suivi. Sancho pose alors une deuxième question qu'un grand cervantiste, Américo Castro, appelait la question terrible, à savoir s'il est plus extraordinaire de ressusciter un mort ou de tuer un géant. Don Quichotte répond qu'il est bien plus grand de ressusciter un mort. Sancho, qui désire par-dessus tout désengager son maître d'une entreprise qui ne leur rapporte que des coups et des bosses, joue alors en virtuose du syllogisme et des ambitions de Don Quichotte pour lui faire remarquer que la vie religieuse assure bien plus sûrement la renommée d'une personne que la vie chevaleresque. Il l'invite donc à se lancer dans la sainteté. Don Quichotte lui fait remarquer que tout le monde ne peut pas être moine, mais il proclame la légitimité d'une nouvelle religion que nous, aujourd'hui, nous appellerions laïque, celle de la vocation et de la morale chevaleresque. Je cite un petit peu le dialogue. Sancho, 2 douzaines de disciplines comptent plus pour Dieu que 2000 coups de lance, que ce soit contre des géants, contre des monstres ou autres chimères. Tout cela est exact, répondit Don Quichotte, mais tout le monde ne peut pas être moine, et les chemins sont nombreux par où Dieu mène les siens jusqu'au ciel. La chevalerie est une religion, et il y a des saints chevaliers au paradis. Oui, répondit Sancho, mais j'ai entendu dire qu'il y a plus de moines au ciel que de chevaliers errants. C'est, répondit Don Quichotte, parce que le nombre des religieux est plus important que celui des chevaliers. Il y a pourtant beaucoup d'errants, dit Sancho. Beaucoup, répondit Don Quichotte, mais peu qui méritent le nom de chevalier. Ces saints chevaliers, Don Quichotte et Sancho, vont les rencontrer au chapitre 58 de la deuxième partie sous forme de statues, d'images sculptées en relief que des hommes transportent pour construire un retable. Il s'agit de Monsieur Saint-Georges, grand défenseur des demoiselles, de Saint-Martin, aventurier chrétien, de Saint-Jacques Matamoros, chevalier des escadrons du Christ, et surtout de saint Paul, abat de son cheval au moment de sa conversion, le plus grand ennemi qu'eut en son temps l'Église de Dieu notre Seigneur, puis le meilleur défenseur qu'elle aura jamais, chevalier errant durant sa vie et saint de pied ferme dans la mort. Or, c'est dans ce même chapitre 58, juste avant la rencontre, que Don Quichotte, qui a décidé de partir du château où le duc et la duchesse l'ont fallacieusement reçu comme on recevait les chevaliers errants dans les romans de chevalerie, prononce son beau et célèbre discours sur la liberté. La liberté, Sancho, est un des dons les plus précieux que les cieux aient fait aux hommes. Ni les trésors que renferme la terre, ni ceux que la mer recouvre ne peuvent s'y comparer. Pour la liberté autant que pour l'honneur, on peut et on doit aventurer la vie. Au contraire, la captivité est le plus grand malheur qui puisse advenir aux hommes. Si je te parle ainsi, Sancho, c'est parce que tu as bien vu les égards et le luxe dont nous avons joui dans ce château que nous venons de quitter. Or, au milieu de ces mets exquis et de ces boissons de neige, il me semblait être pris dans les angoisses de la faim parce que je n'en jouissais pas avec la liberté dont j'aurais joui si ces choses avaient été les miennes. Car les devoirs que l'on a de récompenser les faveurs et les bienfaits reçus sont des entraves qui ne laissent point prendre le champ à un esprit libre. Heureux celui à qui le ciel a donné un morceau de pain sans qu'il soit tenu d'en remercier tout autre que le ciel même. Malgré tout ce que vous m'avez dit, monsieur, répondit Sancho, il ne convient pas de laisser sans remerciement de notre part 200 écus d'or que le majordome m'a donné dans une petite bourse que je porte sur mon cœur comme un baume et un réconfort, et pour les occasions qui se peuvent offrir, car nous n'allons pas toujours trouver des châteaux où l'on nous régalera, nous tomberons parfois sur des auberges où l'on nous donnera du bâton. On remarque une première allusion brève, au contraire, la captivité est le plus grand malheur qui puisse advenir aux hommes, qui n'est pas qu'un complément rhétorique à l'éloge de la liberté. Elle laisse entendre, derrière les propos de Don Quichotte, la voix de Cervantes et l'écho d'une étonnante expérience vécue. Après avoir participé à la bataille de Lépante en 1571, Cervantes est fait prisonnier en 1575 par des corsaires barbaresques au large des côtes catalanes. Il restera 5 ans prisonnier du Pacha et durant ces 5 ans, il fera 4 tentatives d'évasion. À la fin, il sera racheté par les frères trinitaires et libéré. À ces 5 années de captivité, on ne saurait oublier d'ajouter les séjours de Cervantes, alors commissaire chargé de lever l'impôt en Andalousie et de réquisitionner le blé et l'huile dans des prisons espagnoles. Il y fera 2 séjours en 1592 et en 1597. La référence à cette autre prison que constitue l'obligation de gratitude vis-à-vis de la générosité des grands ou de leurs domestiques, développée par les deux personnages, n'est pas de pure rhétorique. Elle renvoie directement à la condition même de l'écrivain ou de l'intellectuel qu'était Cervantes, et plus encore aux conditions précaires de sa vie quotidienne en Espagne. Comme tous ses contemporains, Cervantes dédie ses œuvres à de grands aristocrates qui ne le récompensent pas comme il l'aurait espéré. Rien d'étonnant à ce qu'on trouve dans les deux parties du Quichotte de violentes diatribes contre l'arrogance et les vices cachés des grands. Cervantes n'est pas riche, il appartient à un groupe urbain modeste, marginal, et il n'a aucun titre de noblesse. Il n'en demande d'ailleurs aucun. Il vit entouré de femmes, mais loin de son épouse. Il quitte en effet le domicile conjugal 3 ans après son mariage. Il aurait tiré quelque profit des relations amoureuses de sa fille naturelle, Isabelle, et de ses sœurs, avec des protecteurs fortunés ou des hommes de finance. Par ailleurs, si la dépendance vis-à-vis des aristocrates est une entrave insupportable à la liberté de Don Quichotte, Sancho, qui est toujours une véritable éponge qui absorbe les excès et les contradictions de son maître, pose la vraie question de la nécessaire gratitude envers les bienfaiteurs et celle, tout aussi cruciale, de la prison que constituent la précarité et la pauvreté, deux questions qui vont courir à travers tout le double livre. Je commencerai à parler de l'accident libérateur. Dans une réflexion suggestive, lire Cervantes, Maurice Molo propose que les narrations cervantines, exemplaires ou romanesques, soient toujours l'histoire d'une discordance surgie d'un accident au terme de laquelle il est possible d'appréhender négativement la norme qui fonde la cohérence et la finalité du monde et de s'en libérer. La cause de cet accident consiste toujours en un délire humain, une passion irrépressible, la jalousie, l'avarice, la soif de pouvoir ou, pour Don Quichotte, la lecture. En bref, la folie qui désarticule le monde et constitue aussi un puissant moteur de créativité et de libération. La liberté de Don Quichotte, on le verra, c'est d'abord son imagination et sa mémoire, c'est-à-dire sa folie. Mais plutôt que la liberté proprement dite, c'est d'abord l'évasion, la libération que sa passion des livres lui offre. Mais de quoi s'évade-t-il? De quoi se libère-t-il? Son parâtre, Cervantes, l'a déjà délivré de toute attache topographique, onomastique et familial. Il ne sait pas le nom du village de son fils, il est très indécis quant à son nom. Il le prive de père et bien entendu de mère, et en fait ce que Marthe Robert appelle un enfant trouvé, entre guillemets. Mais un très vieil enfant, puisque, comme son parâtre, Cervantes a 53 ans en 1605, l'improbable, alors il s'appelle soit quijada, mâchoire, quesada, gâteau de fromage ou quijana, frise la cinquantaine lorsqu'il devient fou de littérature chevaleresque. Il devient fou pour plusieurs raisons, parce qu'il passe des nuits entières à lire, de sorte qu'il en oublie de dormir. Or, la privation de sommeil, selon les médecins, accélère le dessèchement du cerveau. Il a par ailleurs un tempérament sec et chaud, une complexion humorale qui le prédispose à la mélancolie. Associé à ce tempérament, sa fureur de lecteur ne peut que le mener à la folie. Concrètement, celle-ci, on le sait, consiste en ce qu'il décide librement de ressusciter la chevalerie errante littéraire et d'en appliquer à la lettre les principes dans un monde qui les ignore et que gouvernent les lois de l'histoire. Une troisième raison justifie l'accident et explique la folie. C'est la prison de son ennui. Don Quichotte n'est pas pauvre. Il a des terres, des armes rouillées, il est hidalgo, obreau de campagne, il a une gouvernante, un valet de maison et de ferme, un vieux cheval et un lévrier pour la chasse. Il vit aussi avec sa nièce. Il s'habille de drap fin et il mange bien, les menus se répétant, identiques à eux-mêmes, de semaine en semaine. L'hidalgo, on l'aura compris, ne fait rien et il ne lui arrive jamais rien. Brusquement, à 50 ans, c'est très vieux à cette époque-là, il se met à acheter compulsivement, non pas n'importe quel livre, mais une littérature d'évasion, les histoires de chevalerie, qui sont les seules à restituer dans son imagination le passé glorieux et merveilleux d'une noblesse jeune, idéale, active, combative et conquérante, ce qu'elle n'est plus, bien évidemment, en ce début de XVIIe siècle. Associé à ce tempérament mélancolique dont nous parlions, la chaleur de l'imagination de Don Quichotte en fait aussi un être colérique, impulsif, jeune en quelque sorte, délirant certes, quand il lit le monde à travers les lunettes de ses lectures, mais également sensé, raisonnable, généreux et encore malin, pragmatique, injuste, quand ça l'arrange. C'est un fou intermittent traversé d'intervalles de lucidité, dit de lui Don Lorenzo à son père, Don Diego de Miranda, le trop parfait chevalier au manteau vert de la deuxième partie. Mais il a, pour vivre libre, une foi indestructible en la morale chevaleresque, il dispose d'un système d'explication du monde et il a l'assurance d'être poursuivi par de malins et méchants enchanteurs, le plus malin et le plus subtil étant bien entendu son parâtre Cervantes, qui en fait le personnage test des épreuves et des expérimentations de la liberté. Les premiers pas de la liberté de Don Quichotte sont jubilatoires. Une fois la décision prise, il se hâta d'accomplir ce qu'il désirait. L'accomplissement du désir est comme une deuxième genèse, la création fébrile d'un monde. Une semaine, 7 jours, pour nettoyer les armes et se rafistoler un casque, et voilà notre Hidalgo armé. Mais d'emblée, les 7 jours de sa création, se multiplient et perdent de leur majesté. 4 jours de plus pour nommer son cheval Rocinante. 8 jours supplémentaires pour se donner un nom de guerre, Don Quixote, Don Cuissard ou Don Cuisseau, une pièce d'armure. Et on ne sait combien de jours lui a coûté l'invention de sa douce maîtresse Dulcinée. De plus, Don Quichotte, contrairement à Jéhovah, ne part pas de rien, ni du chaos originel. Il part de l'existant, qu'il détourne et refaçonne pour l'adapter à son désir, comme l'enfant et l'adulte qui jouent, l'artiste et le romancier démiurge qui créent. L'existant, ça résiste. Et c'est le misérable casque rafistolé qui, le premier, résiste au désir de Don Quichotte en ne résistant pas au grand coup d'épée qu'il lui assène pour tester sa solidité. Mais la liberté du héros est totale. Il lui suffit de décréter que ce casque, qu'il renforce comme il peut, est de la plus fine trempe pour que, comme la lumière biblique, le casque soit. Tout aussi jubilatoire est son départ. Départ furtif de nuit par la porte dérobée, étonnamment semblable à la sortie de l'âme amoureuse qui part à la rencontre de l'époux dans les poèmes et les commentaires mystiques de Saint Jean de la Croix. Un départ qui est comme une fuite de la prison quotidienne et qui se répétera, identique à lui-même, le même jour caniculaire de juillet, dans la deuxième partie. Le premier acte de liberté, pourtant, consiste pour Don Quichotte à confier sa liberté à celle de Rocinante, son cheval, et à continuer sa route sans en suivre d'autre que celle que voulait son cheval, croyant qu'en cela consistait le fin du fin des aventures. Pendant que lui-même, chemin faisant, imagine les discours les plus ronflants, les plus extravagants, et que le soleil brûlant qui monte aurait suffi à lui fondre la cervelle s'il en avait eu tant soit peu. Mais l'apprenti chevalier errant, qui avance lentement vers nulle part, va très vite déchanter, car les premiers pas de sa liberté se révèlent très décevants. Il chemina presque tout le jour sans qu'il lui arrivât chose digne d'être racontée, ce dont il se désespérait. Quand la nuit tombe, il est fatigué, il a faim et il ne sait pas où aller. Admirable déception que celle que procure l'aplatissement du rêve et une liberté non apprivoisée, encore vacante et soumise aux besoins du corps. Heureusement, pour Don Quichotte, sa prodigieuse mémoire lui porte secours. Il se rappelle qu'il n'est pas armé chevalier, et cette pensée terrible l'inciterait même à abandonner l'entreprise s'il n'avait lu dans ses livres, décidément libérateurs, qu'on pouvait se faire armer chevalier par le premier venu. La liberté de l'écrivain, qui se dégage des contraintes chevaleresques ou pastorales pour adopter celle du roman picaresque, place alors sur sa route non pas le château ou la bergerie qu'il espérait, mais une auberge. À la porte de cette auberge, il rencontre deux princesses, entre guillemets, en la personne de deux jeunes prostituées délurées, et il rencontre aussi un aubergiste cultivé, malin et perspicace, qui lui donne une série de conseils pratiques, dont celui de se faire accompagner par un écuyer, et qui va l'armer parodiquement chevalier. Que se serait-il passé si, au lieu d'accepter de jouer pour s'amuser le jeu de Don Quichotte, en renonçant même à se faire payer, puisque les chevaliers errants ne payaient pas l'hospitalité qu'on leur offrait, que se serait-il passé si l'aubergiste l'avait proprement jeté à la porte ? Cette question, bien entendu, est absurde, mais elle met en lumière comment la liberté de Don Quichotte déclenche celle de l'aubergiste et le fait sortir du monde mercantile qui le fait vivre, et de la fiction picaresque qui l'emprisonne dans un type littéraire bien moins sympathique qu'il ne l'est dans le Quichotte. La folie libératrice de l'Hidalgo le dégage, l'espace d'un chapitre, de ses entraves socio-économiques et génériques et d'une stylisation très négative pour le rajeunir et le transformer au contact de la fiction chevaleresque. Jean-Paul Sartre écrit qu'un bon romancier doit faire semblant de renoncer à son omnipotence pour concéder à ses personnages une illusion d'autonomie et donner l'impression que ces êtres d'encre et de papier qu'il a entièrement créés et qui n'existent que par sa plume sont des personnes, de véritables êtres humains. Cervantes y a réussi, au-delà de toute espérance, en octroyant d'abord à son personnage la liberté, en tant que personnage, de critiquer le chroniqueur ou l'historien de ses exploits, c'est-à-dire le romancier lui-même. On le sait, et Michel Foucault l'a écrit avec panache dans « Les mots et les choses », dans la seconde partie du roman, Don Quichotte rencontre des personnages qui ont lu la première partie du texte et qui le reconnaissent, lui, homme réel, pour le héros du livre. Mais ce livre, Don Quichotte ne l'a pas lu, et il n'a pas à le lire, puisqu'il l'est en chair et en os. Dans la deuxième partie du Quichotte, publiée donc 10 ans après la première, le livre, en effet, entre dans le livre. Et les deux héros apprennent, à leur grande surprise, que leurs aventures ont été minutieusement consignées et racontées dans un ouvrage. Celui-ci a beaucoup circulé. Il a été lu par toutes sortes de lecteurs, jeunes et vieux, nobles et roturiers, après avoir été imprimé au Portugal, à Barcelone et à Valence. Don Quichotte est ravi d'avoir acquis de son vivant une bonne renommée. Certains lecteurs, cependant, auraient préféré qu'on leur épargne une partie des innombrables coups de bâton qui furent donnés à plusieurs reprises au seigneur Don Quichotte. L'un des défauts, cependant, que l'on reproche à cette histoire est l'insertion dans la première partie d'une nouvelle, le curieux impertinent. Ce défaut provoque la colère du chevalier contre, je cite, « l'ignorant bavard qui s'est mis à écrire à la va comme je te pousse, alors qu'avec mes pensées, mes soupirs, mes larmes, mes chastes désirs et mes entreprises, il aurait eu de quoi remplir un volume plus grand, ou au moins aussi grand que celui qu'on peut remplir avec les œuvres complètes du Tostado, qui était un évêque dont la plume était particulièrement féconde. À ce moment-là, d'autres défauts, des incohérences, des négligences, des oublis de la première partie sont passés au crible, et Don Quichotte et Sancho, tous les deux, assimilés à des êtres vivants, expliquent, justifient et corrigent ce qu'ils ont fait en tant que personnages dans la première partie. Il y a là, dans l'histoire du roman, une nouveauté absolue. Cervantes transforme en matériaux romanesques des questions de critique littéraire ou de sociologie de la lecture, ainsi que le statut de la fiction ou celui de l'histoire. Devenu une personne, Don Quichotte, qui prend les livres de chevalerie pour des traités historiographiques et qui est persuadé qu'il raconte des histoires vraies, n'a aucun mal à proclamer que le récit de ses aventures relève de l'histoire et non de la fiction, bien qu'il s'inquiète des incohérences de son historien qui rendent nécessaires des commentaires pour que l'on comprenne le livre. Il est rassuré à ce sujet. Le livre est lu par tout le monde, il fait rire tout le monde et il n'a pas besoin des innombrables et des milliers et milliers de pages qui ont été écrites depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui sur le roman. Voici donc Don Quichotte, promu critique de son biographe, alors que dans la première partie, il s'en prenait pour s'en plaindre amèrement aux enchanteurs qui lui mettaient des bâtons dans les roues et l'empêchaient de mener à bien son entreprise chevaleresque. C'est encore dans la deuxième partie que le premier auteur de l'histoire, l'historien maure Cide Hamet Benengeli, s'avoue incapable de savoir si son héros dit la vérité ou s'il a menti, et laisse au lecteur le soin de trancher. Il est difficile d'aller plus loin dans la stratégie de libération du personnage, d'autant plus que la liberté de Don Quichotte dans l'aventure de la caverne de Montesinos est telle que personne ne peut vérifier si ce qu'il raconte est vrai ou faux. Je rappelle un petit peu cette aventure. Don Quichotte a décidé d'explorer la fameuse grotte de Montesinos et il prépare soigneusement l'excursion. Il achète 100 brassées de cordes et regrette au moment de descendre de ne pas s'être muni d'une clochette qui aurait teinté à chacun de ses mouvements et aurait indiqué à ses compagnons qu'il était toujours en vie. L'entrée de la caverne est pleine de broussailles, de ronces, de figuiers sauvages. Don Quichotte doit s'y frayer un chemin à coups d'épée, puis il se fait descendre. La voix du chevalier s'étant perdue dans les entrailles de la grotte, Sancho et le guide qui les accompagne décident d'attendre une demi-heure. Puis ils remontent le chevalier, si profondément endormi qu'ils ne peuvent le faire revenir à lui qu'après l'avoir fort longtemps secoué et malmené. Ce sommeil d'une lourdeur inusitée introduit une note d'étrangeté qui sert d'antichambre à la question de la liberté créatrice du chevalier et de ses chroniqueurs. Au terme de sa descente, sorti d'un sommeil profond, Don Quichotte raconte qu'il s'est retrouvé bien éveillé dans la plus délicieuse des prairies au pied d'un merveilleux château de cristal dont il a vu sortir le vieux chevalier Montesinos, enchanté par Merlin, qu'il accueille à bras ouverts, car seul le chevalier au lion, c'est le nouveau surnom de Don Quichotte, seul le chevalier au lion pourra le désenchanter. Montesinos le conduit auprès d'autres personnages, enchantés comme lui et issus du romancero espagnol et de la geste carolingienne. Il aperçoit aussi Dulcinée, sous l'apparence grossière de la paysanne que le menteur et malin Sancho lui avait montré lors de la visite au village du Toboso. Et très curieusement, l'une des compagnes de Dulcinée lui demande de prêter à sa maîtresse, sur un cotillon tout neuf qu'elle lui donne en gage, une demi-douzaine de réaux. On ne peut nier l'étrangeté de l'aventure, d'autant plus que Don Quichotte, qui ne saurait mentir, affirme être resté 3 jours dans la grotte, alors que ses compagnons n'ont attendu qu'une demi-heure pour l'en retirer. Tout s'expliquerait, et les impossibles se dénoueraient, si l'on considérait avec Sancho que Don Quichotte a été lui aussi enchanté, ou, comme le supposent certains cervantistes, qu'il a rêvé. Or, il affirme ne pas avoir rêvé. En fait, cette vision, dont il est le seul à avoir eu le privilège, ne fait que lui montrer, comme le font les rêves d'ailleurs, la vérité du destin de la littérature. À lui, qui veut ressusciter par des actes et en appliquant à la lettre ses prescriptions une littérature périmée, est accordé le privilège inouï de voir comment peuvent survivre des personnages littéraires. Ces héros du romancero, en tant qu'êtres de poésie, sont immortels, mais en tant que personnages pris pour des personnes, ils doivent passer par l'épreuve de l'expérience biologique. Ils vieillissent donc sans jamais mourir, ou s'ils sont morts dans la littérature, ils continuent de vivre littéralement leur statut de mort. Don Quichotte, vieux et sec, comme les héros momifiés qui lui demandent de les désenchanter et de les rajeunir, n'est-il pas celui qui a décidé librement que le monde devait s'adapter à lui, l'unique et glorieux représentant d'une littérature décrépite qu'il a désenchantée et dont il ranime les principes idéologiques oubliés, ringards et toujours vivants. Et pourtant, la liberté du personnage est telle que quelques chapitres plus loin, il va lui-même douter de sa vision. À la fin de la farce bouffonne de la duègne Doloride et des dames barbues, dans la deuxième partie, le duc et la duchesse imaginent de faire monter Don Quichotte et Sancho pour un voyage intersidéral imaginaire sur un cheval de bois qu'on appelle Chevillard. Les deux héros, ayant eu les yeux préalablement bandés, de grands soufflets, des étoupes enflammées, des fusées et des pétards leur donnent l'illusion qu'ils traversent les différentes régions de l'air avant que le cheval explose, les jetant à terre. Sancho, qui soutient à son tour n'avoir ni rêvé ni menti, raconte alors qu'il n'a pu s'empêcher d'écarter légèrement son bandeau. Il a pu ainsi découvrir la terre vue du ciel et les étoiles. Et il avoue même être descendu du cheval pour s'entretenir avec les sept chèvres de la constellation des Pléiades. Aussi invraisemblable que les visions de Don Quichotte au sein de la terre, celle de Sancho dans les régions célestes lui attire cette extraordinaire remarque du chevalier. « Sancho, puisque vous voulez que l'on vous croie pour ce que vous avez vu dans le ciel, moi, je voudrais que vous me croyiez pour ce que j'ai vu dans la caverne de Montesinos. Et je ne vous en dis pas davantage. » Il est vrai que nous sommes dans la deuxième moitié de la deuxième partie et que Don Quichotte apprend, difficilement mais progressivement, à sortir de la liberté que lui octroyait sa folie pour accéder à la liberté de la raison. Pour en arriver là, il lui a fallu se heurter aux limites de sa première liberté. Donc les limites de la première liberté de Don Quichotte, deux aventures de Don Quichotte justicier. Je reprends ici l'excellente analyse que fait Jean-Marc Pélorson de l'imagination quichotesque à l'aune des échecs. Cette imagination devenant, dans ma perspective, la liberté de Don Quichotte. Le bilan global de l'exercice de cette liberté est absolument consternant pour la première partie tout au moins. En dehors de ces intervalles lucides, je cite Pélorson, Don Quichotte est une vraie catastrophe pour autrui et pour lui-même. Il blesse deux muletiers et se fait lapider dans l'auberge qu'il prend pour un château. Il aggrave le sort d'un jeune berger qu'il voulait secourir. Puis tombé avec Rocinante, il se fait bâtonner par un serviteur des marchands de Tolède qu'il avait agressé. Il roule à terre lors de l'épouvantable aventure des moulins, puis attaque deux moines bénédictins dont les valets le rouent de coups et à peine relevé affronte un biscaïen qu'il finit par mettre en sang. Il blesse un muletier yangois dont les compagnons l'étrillent en retour. Il est rossé par un autre muletier dans l'auberge de Maritorne, puis à moitié assommé par un archer de la Sainte-Hermanda. Il échoue à secourir son écuyer malmené par des farceurs. Il assaille des troupeaux de moutons, déclenche la fureur des pâtres et y gagne deux côtes cassées, deux doigts écrasés et trois dents en moins. La leçon de ces échecs tient, dit Pélorson, adoptant le point de vue des agressés, à son agressivité injustifiée. Je dirais qu'au contraire, son agressivité est toujours justifiée. Les personnages qu'il rencontre et défie en combat singulier, ou qu'il attaque après une ou deux sommations, ne comprennent rien à ce qu'il demande. Ils se moquent de lui, ou plus impertinents ou impatients sont les premiers à l'attaquer physiquement. Néanmoins, la cruelle leçon du livre de Cervantes débouche sur une double critique et une double sanction. Critique et sanction de l'application au pied de la lettre de principes, de règles et de lois sans attention au contexte, aux spécificités et aux différences. Critique et sanction de l'interprétation aveugle des faits en fonction d'un code de déchiffrement préétabli. À ce titre, les malheurs de Don Quichotte et l'usage qu'il fait de sa liberté anticipent, je dirais, à contrario et sur le mode romanesque, parodique et comique, sur la découverte, quelques décennies plus tard, de la nécessaire table rase, seule habile à permettre le libre exercice de l'entendement et de la raison. La folie de Don Quichotte, qui est sa liberté paradoxale et dangereuse, est aussi sa prison. Une prison dont les murs, contre lesquels il se heurte et se casse les côtes et les dents, sont les pièges que lui tend le narrateur de ses exploits. Nous le disions il y a peu, Don Quichotte est l'un des rares personnages romanesques auquel soit accordée une liberté étonnante, créatrice, libératrice et critique. Mais il est aussi et en même temps, à proportion de cette liberté, l'un des personnages les plus piégés de la littérature européenne. On le voit piégé par deux nuages de poussière qui, sur une étendue déserte, foncent l'un contre l'autre à toute allure. Piégé par deux énormes silhouettes perchées sur de gigantesques, je cite, « dromadaires ». Piégé par les bras de moulins géants et menaçants que le vent met en mouvement. Piégé par une chose qui brille sur la tête d'un individu monté sur une indéfinissable monture. Piégé par la musique chevaleresque des propos d'un aubergiste picaro dont il n'entend pas les picaresques paroles. Piégé par son narrateur, par ses amis, le curé et le barbier, par les apparences, par les faits, par le langage, Don Quichotte, devant l'insolite, l'incompréhensible ou le révoltant, a un recours et une arme, la liberté de s'enfermer dans la prison de son système d'explication du monde. C'est ce qu'il fait à deux reprises dans la première partie. Mais ces deux fois-là, la liberté qu'il prend de s'ériger en champion de la justice et de la liberté a des résonances modernes, profonde et dérangeante. L'aventure du petit Andrés est sa toute première aventure, alors même qu'il n'a pas encore engagé Sancho. Dans une forêt, Don Quichotte entend des cris. Avant même de savoir de quoi il retourne, il décide qu'il s'agit d'une aventure de chevalerie. Il voit un garçon de 15 ans attaché à un arbre qu'un rude paysan est en train de rouer de coups. Sommé de s'expliquer, le paysan accuse le garçon de négliger les troupeaux dont il a la garde. Andrés, lui, se plaint de ce que son maître ne le paie pas. Ayant vu une lance, je cite, appuyée contre le chêne où le paysan avait attaché sa jument, Don Quichotte le prend pour un chevalier errant. Il l'oblige à détacher Andrés et lui fait jurer, parole d'honneur chevaleresque, de payer le garçon. Le vilain, terrorisé d'abord, jure et demande à Andrés de le suivre chez lui où il a l'argent. Andrés supplie Don Quichotte de ne pas l'abandonner, mais celui-ci, croyant dur comme fer en la parole donnée, s'en va, fier de son premier exploit. La suite, on l'imagine, est dramatique. Le paysan se venge et fait payer sa peur au garçon en redoublant ses coups au point de le laisser plus mort que vif. Andrés réapparaîtra au chapitre 31 et il raconte la suite de ses malheurs à Don Quichotte. Pour conclure, par une condamnation différée de l'entreprise de libération dont il a été le malheureux bénéficiaire. « Pour l'amour de Dieu, Seigneur chevalier errant, si vous me rencontrez une autre fois, quand bien même vous me verriez être mis en pièces, ne me portez secours, ni ne me venez en aide, mais laissez-moi avec mon malheur. Il ne sera pas tel que ne soit pire encore celui que me vaudra votre aide. Dieu vous maudisse et tous les chevaliers errants qui sont venus au monde. » L'aventure de la chaîne des forçats se situe au chapitre 22 de cette même première partie, et elle s'intitule « De la liberté que donna Don Quichotte à plusieurs malheureux que l'on menait malgré eux où ils n'auraient pas voulu aller ». Le titre décrit littéralement la situation, et l'on ne saurait dire s'il est ironique ou non. Don Quichotte, autopromu chevalier libérateur, y sera immédiatement puni. Voici comment. Les deux héros voient arriver une douzaine d'hommes à pied, enfilés par le cou, comme grains de chapelet, à une longue chaîne de fer et ayant tous menottes aux mains. Sancho a alors une phrase qui déclenche l'indignation de Don Quichotte, et je pose la question, que se serait-il passé s'il avait utilisé d'autres termes? Question de nouveau absurde, mais qui met en lumière ce qui va suivre. Voilà une chaîne de galériens, des forçats du roi qui vont aux galères. Don Quichotte, piégé par le langage, s'accroche au mot forçat et se scandalise de ce que le roi, garant de la liberté de ses sujets, puisse forcer personne à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Il ne tient compte d'aucun argument, ni des explications des gardes, et il commence à questionner les forçats. Malin comme des diables roués, ceux-ci se vantent de leurs forfaits en les minimisant et en portant aussi quelques lourdes accusations contre les juges et le fonctionnement de la justice. Certains délits n'en sont pas aux yeux de Don Quichotte. En particulier, il prononce un magnifique discours en faveur de la prostitution et des entremetteurs qui œuvrent pour le bien de la République. Il est convaincu par un autre forçat qui n'a pas eu d'argent pour soudoyer les juges et pour échapper aux galères. Il ne comprend pas l'attitude répressive des gardes à qui les condamnés n'ont rien fait. Il est outré que l'on puisse traiter en esclaves des hommes libres. Après cette profession de foi libertaire, je cite Pélorson, il ordonne aux gardes de relâcher les forçats. Ceux-ci refusent, Don Quichotte les met en fuite. Sancho est terrifié. Il ne fait pas bon s'attaquer à la justice royale à ce moment-là. Donc, Don Quichotte libère donc les forçats, mais il n'en a pas fini avec eux. Il exige qu'ils aillent s'incliner devant Dulcinée pour témoigner de l'exploit de son valeureux chevalier servant. En bons délinquants qu'ils sont, les forçats se mutinent, lapident le maître et l'écuyer, les détroussent et s'en vont sans demander leur reste. Avec ces deux aventures, ces deux quijotadas, Don Quichotte vient de s'inventer, pour une longue série de siècles, un rôle et un personnage. Il est désormais non seulement Don Quichotte, mais un Don Quichotte. Cet égoïste doté d'esprit de sacrifice, comme le définissent Marx et Engels, cités par Pélorson, ou ce médiateur indiscret et intempestif qui se mêle pour leur bien des affaires des autres sans y avoir été invité. Cependant, l'idéal de liberté et de justice qui a animé ces deux malheureuses initiatives ne cesse de hanter les esprits et touche à de nombreuses questions d'actualité. La protection de l'enfance, la législation criminelle concernant les mineurs, la qualification des délits et l'adaptation des peines à leur gravité, et aussi, au plan politique, le droit d'ingérence, les instances de médiation, l'assistance à personnes ou à groupes en danger. Toute question qui suscite le retour, salué de tous et partout aujourd'hui, du justicier solitaire et puissant, c'est-à-dire d'un Don Quichotte triomphant et non misérablement perdant, comme le fait toujours perdre Cervantes. Avec lui, cependant, on ne saurait en rester là. Un épisode de la deuxième partie, le retable de marionnettes de Maître Pierre, qui n'est autre que l'un des forçats de la première partie, met à nouveau en scène ce Don Quichotte qui est devenu Don Quichotte en faisant le prototype du spectateur naïf qui libère des marionnettes et à son insu qui en fait le restaurateur de la justice. Un détail juridique met en relation les trois histoires. Le jeune garçon, chargé des commentaires, explique que la belle Mélisandre, prisonnière des morts, est embrassée sur la bouche par un mort amoureux et insolent, aussitôt condamné par le roi Marsile à recevoir 200 coups de fouet. La sentence est exécutée sur le champ, car, comme l'explique le jeune commentateur, chez les morts, il n'y a pas communication à la partie, ni de pourvoi en révision comme chez nous. « mon garçon, dit alors Don Quichotte à voix haute, poursuivez votre histoire en ligne droite et ne vous mettez point dans les courbes ou dans les traverses, pas car pour tirer une vérité au clair, il faut maintes preuves et contre-épreuves. » Donc le chevalier Don Gaiferos arrive pour délivrer sa maîtresse, il la fait descendre de sa tour par un balcon auquel elle reste accrochée par sa jupe un instant et il l'emporte sur la croupe de son cheval. Exaspéré et angoissé de voir que les amants chrétiens vont être rattrapés par la cavalerie morte, Don Quichotte se dit qu'il serait bon de venir en aide aux fugitifs. Il défie la cavalerie d'une voix tonitruante, il dégaine son épée et met en pièces le retable et toutes les marionnettes, se vengeant ainsi, sans le savoir, de l'ingratitude du forçat qu'il avait libéré. Néanmoins sensible aux lamentations de Maese Pedro, qui a tout perdu, Don Quichotte, dont la colère est tombée, constate qu'il a été victime d'un enchanteur qui n'est ici que la magie de l'illusion comique. Il y a cru et va rembourser le malheureux montreur de marionnettes du désastre qu'il a ruiné. La liberté est au cœur de l'histoire représentée par les marionnettes. Elle est au cœur de la sanction différée infligée à l'ancien forçat, libéré dans la première partie. Elle est enfin au cœur de la deuxième partie du livre, mais elle a subi un transfert. La littérature a désormais envahi le monde, grâce à Don Quichotte. Au théâtre, comme dans le château du duc et de la duchesse, qui vont reconstruire, pour se moquer de lui, l'univers qu'il appelait de ses vœux dans le livre, le premier livre compilé par Cide Hamet Benengeli. Don Quichotte, libéré de son désir et mis au spectacle de sa folie et de sa liberté, n'a plus besoin de forcer les apparences ni d'appliquer à la lettre les prescriptions formelles de la chevalerie. Car dès la première partie, il sait aussi en appliquer l'esprit et l'idéologie généreuse et désintéressée. Dernier donc point de cette communication, la liberté de Don Quichotte, amour, folie et critique de la folie. Plus libre est l'âme la plus soumise à l'antique tyrannie d'amour, tel est le testament paradoxal du berger Grisostomo. Amoureux de la plus belle, de la plus insensible et de la plus ingrate et cruelle des bergères, la farouche et indépendante Marcella, Grisostomo s'est suicidé par désespoir amoureux et ses amis, au moment de le porter en terre, lisent publiquement sa chanson désespérée. Au moment où la lecture s'achève, surgit une merveilleuse vision, la bergère Marcella, si belle, je cite, que sa beauté en surpassait encore la renommée. Dans un splendide discours, elle revendique la liberté de ne pas aimer qui l'aime pour une beauté dont elle n'est pas responsable et qu'elle n'a pas demandée, car le véritable amour doit être volontaire et non pas contraint. Et elle rappelle qu'elle n'a jamais encouragé Grisostomo, pas plus qu'elle ne l'a abusé, sur la nature de ses sentiments. Je cite un tout petit passage de ce discours. « Libre je suis né, et pour pouvoir vivre libre, j'ai choisi la solitude des champs. Ma nature est d'être libre, et je ne veux pas m'assujettir. Je n'aime ni ne hais personne. Je ne trompe pas celui-ci, ni ne recherche celui-là. Je ne me moque pas de l'un, ni ne me divertis avec l'autre. L'honnête compagnie des bergères de ce village et le soin de mes chèvres m'occupent. Mes désirs sont bornés par ces montagnes, et s'ils vont au-delà, c'est pour contempler la beauté du ciel, parcours que suit l'âme en cheminant vers sa demeure première. » L'auditoire est saisi, le discours est beaucoup plus long, et le lecteur aussi. Mais lorsque Marcella disparaît au plus profond d'un bois, certains font mine de vouloir la suivre. Je cite « Ce que voyant Don Quichotte jugea fort à propos d'user de sa chevalerie, en portant secours aux damoiselles nécessiteuses. Et mettant la main sur la poignée de son épée, il s'écria à haute et intelligible voix « Que personne, quelle que soit sa condition et son état, ne se hasarde à suivre la belle Marcella, sous peine d'encourir les fureurs de mon indignation. Elle a démontré par des raisons claires et suffisantes qu'elle n'était pas coupable, ou guère, de la mort de Grisostomo et qu'elle était fort éloignée de condescendre au désir d'aucun de ses soupirants. Aussi est-il juste qu'au lieu d'être suivie et poursuivie, elle soit honorée et estimée de tous les gens de bien qui sont au monde, car elle montre qu'elle est la seule à y vivre avec une aussi honnête intention. » Champion de la liberté de ne pas aimer, et champion ici de la liberté d'une femme, Don Quichotte, pourfendeur des mariages arrangés par les parents ou forcés par l'intérêt, est le défenseur du libre choix des amants, comme il l'est dans un autre domaine, du libre choix de leur vocation et de leur métier par les jeunes gens. L'un des épisodes les plus célèbres de la deuxième partie, celui des noces du riche Camacho, en offre un exemple réjouissant, parodique et doux amer. À l'entrée du chapitre 19 de cette deuxième partie, Don Quichotte et Sancho rencontrent deux étudiants et deux paysans. « Seigneur chevalier, dit alors l'un d'eux, si vous êtes libre de prendre le chemin que vous voulez, ainsi qu'il est d'usage chez ceux qui cherchent des aventures, venez donc avec nous et vous verrez l'une des noces les plus belles et les plus riches que l'on ait célébrées à ce jour dans la Manche. » Le très riche Camacho épouse la très belle Quiteria et il prépare des noces extraordinaires d'un luxe rustique inouï. Mais la belle Quiteria est amoureuse d'un jeune homme pauvre, Basilio. Comme Pyram et Thisbé, ils vivent dans des maisons mitoyennes et s'aiment depuis leur petite enfance. Basilio est un jeune homme très doué. Il court comme un daim, saute comme une chèvre, joue merveilleusement aux boules, manie l'épée comme un champion, chante comme un rossignol et fait chanter et parler sa guitare comme personne. Mais il est pauvre et le père de Quiteria n'en veut pas. Sancho, chevaleresque, prend immédiatement le parti de Basilio. Don Quichotte est plus prudent. Le mariage est une affaire grave et un sacrement qui engage jusqu'à la mort. Les parents ont leur mot à dire et l'aveuglement amoureux peut tourner la tête des filles comme des garçons. Cependant, le malheureux Basilio donne tous les signes d'une mélancolie qui l'empêche de manger et de dormir. Le oui de Quiteria signera son arrêt de mort. Le jour suivant, Sancho et Bailly découvrent en plein air les opulentes cuisines des noces. Je passe mes énormes marmites ventrues, des veaux entiers mis à rôtir, 60 outres de vin, un deuxième pays de cocagne. Enfin autorisé à assouvir sa faim millénaire de paysan pauvre, il change immédiatement d'avis. Si Basilio voulait épouser Quiteria, il n'avait qu'à être riche. Divers spectacles sont alors offerts aux invités qui confortent Sancho dans son nouveau choix. Don Quichotte, libre quant à lui de toute pensée intéressée, lui reproche d'être toujours du côté du manche quand le cortège des mariés est brusquement interrompu par l'arrivée de Basilio qui se passe une épée à travers le corps. Ensanglanté, mourant, Basilio supplie Camacho de lui accorder d'épouser Quiteria avant de rendre l'âme. Le généreux Camacho accède à sa demande et le curé marie Basilio et Quiteria. On devine la suite. Basilio ressuscite miraculeusement car tout n'était que ruse et mise en scène. Quiteria est ravie, mais Camacho et ses hommes veulent se venger. C'est alors que Don Quichotte, à cheval et la lance pointée, s'interpose et tient les offensés en respect. Quiteria était à Basilio et Basilio à Quiteria par une juste et favorable disposition des cieux. Camacho est riche et pourra trouver son bonheur quand, où et comme il lui plaira d'y mettre le prix. Basilio ne possède que cette brebis et personne, aussi puissant soit-il, ne la lui enlèvera. Car ce que Dieu a uni, l'homme ne peut les séparer. Et quiconque voudra l'essayer devra d'abord passer par la pointe de cette lance. Camacho se console en pensant que s'il avait épousé Quiteria, elle l'aurait trompé en continuant à aimer Basilio. Qu'en est-il des propres amours de Don Quichotte? Elles sont gouvernées à leur origine par la dialectique de la prison et de la liberté. Le vieux garçon et tout nouveau chevalier errant n'est pas libre de ne pas aimer. Les conventions de la littérature chevaleresque l'obligent à se trouver une dame à adorer, à laquelle il dédiera toutes ses aventures. Don Quichotte n'est pas non plus libre d'aimer n'importe qui. Il faut que la dame de ses pensées soit une très haute princesse, lointaine, et pourvue de tous les attributs de beauté qu'égrènent inlassablement la poésie courtoise et la littérature amoureuse. Mais, on l'a dit plus haut, la liberté créatrice de Don Quichotte, semblable en cela à celle de l'écrivain, ne s'exerce qu'à partir de l'existant. En l'occurrence, l'existant, le narrateur nous l'indique, c'est une jeune paysanne, Aldonza Lorenzo, que Don Quichotte aurait regardée quelque 4 fois dans sa vie sans qu'elle s'en aperçoive jamais et dont il aurait été jadis amoureux. Lorsqu'au chapitre 25 de la première partie, Don Quichotte s'isole dans la montagne pour y faire pénitence d'amour, il donne à Sancho une lettre de change pour 3 annons que sa nièce devra livrer à l'écuyer et une lettre d'amour pour Dulcinée. Il mentionne ses parents, Lorenzo Corchuelo et Aldonza Nogales. Sancho ébahi reconnaît alors Aldonza Lorenzo et dresse d'elle le plus extraordinaire et le plus drôle antiportrait rustique qu'on ait pu opposer au portrait idéalisant de la poésie courtoise. Don Quichotte, un peu piqué, lui reproche ses bavardages intempestifs et lui répond par une anecdote grivoise et par un discours étonnant dans lequel il revendique sa propre liberté et la liberté des poètes. Je vous lis quand même cette réplique de Don Quichotte. « Afin que tu vois combien tu es sot et combien je suis sage, je veux te faire entendre une petite histoire. Tu sauras donc qu'une belle veuve, jeune, libre et riche, et par-dessus tout décidé, s'est pris d'un jeune frère laid, robuste et fort râblé. Le supérieur du couvent vint à l'apprendre et dit un jour à la bonne veuve, en manière de fraternelle remontrance, « Je suis étonnée, madame, et non sans raison, qu'une femme aussi noble, aussi belle et aussi riche que vous, se soit amourachée d'un homme aussi grossier, aussi bas et aussi stupide qu'un tel, alors qu'il y a dans cette maison tant de maîtres, d'aspirants docteurs et de théologiens, entre lesquels vous auriez pu, madame, choisir comme entre des poires, en disant « Je veux celui-ci, je ne veux point de celui-là ». Mais elle lui répondit avec beaucoup d'esprit et d'aplomb « Vous vous trompez, monsieur, et pensez fort à l'ancienne. Si vous croyez que j'ai mal choisi en prenant un tel, quelque imbécile qu'il vous paraisse. Car, pour ce que j'en attends, il sait autant de philosophie, voire davantage qu'Aristote. Aussi, Sancho, pour ce que j'attends de Dulcinée du Toboso, elle vaut autant que la plus haute princesse de la terre. Crois-tu que les Amaryllis, les Phyllis, les Sylvie, les Diane, les Galatées, les Alides et autres semblables dont sont remplis les livres, les romances, les boutiques de barbiers, les scènes, aient été véritablement de chair et de sang et aient appartenu à ceux qui les ont célébrés et qui les célèbrent? Assurément non. Le plus souvent, ils imaginent, pour donner un sujet à leur vers et pour qu'on les croie amoureux et capables de l'être. Et pour conclure le tout, je me figure qu'il en est exactement comme je le dis. Et je me la représente en mon imagination telle que je la désire, tant en beauté qu'en noblesse. Et ni Hélène ne l'approche, ni Lucrèce n'y atteint, ni aucune autre des dames célèbres du temps passé, grecques, barbares ou romaines. Et que chacun dise ce qu'il voudra, si je dois pour cela être blâmé par les ignorants, je ne serai pas réprimandé par les rigoristes. » Don Quichotte exprime le même doute au chapitre 32 de la deuxième partie, lorsqu'il répond à la duchesse qui juge que Dulcinée est fantastique et qu'elle n'existe pas. « Sur cela, il y a beaucoup à dire, » reprit Don Quichotte. « Dieu sait s'il y a ou non au monde une Dulcinée et si elle est ou non de pure fantaisie. Ce ne sont pas là des choses qu'il faut chercher à vérifier jusqu'au bout. Je n'ai point engendré madame, ni ne l'ai enfantée, même si je la contemple et je la vois comme il convient que soit une dame. » Comment définir plus justement le statut réel-non réel du personnage de fiction? Comment mieux poser le problème de la foi? Comment mieux affirmer quelques siècles à l'avance que le fantasme est plus réel que la réalité? Et comment mieux anticiper sur la liberté à venir d'une raison qui, en ce début de XVIIe siècle, n'a pas encore subi l'épreuve du doute méthodique et est encore chargée du lest des fables mensongères et des fictions invraisemblables? Car la folie de Don Quichotte, sa prison libératrice, présente ce caractère prodigieux de se mettre continuellement en question, de s'autocritiquer en permanence, comme s'il lui était donné d'ouvrir la voie à un accès libre et constant à la raison et à la vérité, c'est-à-dire au réel, et là je cite encore Maurice Molo. Cependant, le fin du fin de sa perfection d'amant chevaleresque, c'est la pénitence amoureuse que Don Quichotte décide d'accomplir dans la montagne, au chapitre 25 et 26 de la première partie. Il s'agit d'un acte absolument gratuit, inutile, absurde, puisque Don Quichotte, qui s'enferme obstinément dans l'obligation d'imiter soit le Roland furieux de l'Arioste, furieux quand il découvre que la belle Angélique a fait vilenie avec Médor, soit Amadis, le beau ténébreux, désespéré par le dédain d'Oriane, Don Quichotte, lui, n'a absolument rien à reprocher à son immatériel dulciné. À Sancho, qui le lui fait remarquer, et qui lui dit que rien n'indique que Madame Dulcinée ait commis quelque enfantillage avec mort ni chrétien, il répond « C'est là le fin de la chose et le délicat de mon affaire. Qu'un chevalier errant est sujet de devenir fou, voilà qui n'a ni goût ni grâce. Mais tout l'art est de déraisonner sans motif, en donnant à entendre à Madame que si je le fais à froid, que ne ferais-je à chaud ? Aussi, ami Sancho, ne perds pas ton temps à me déconseiller une imitation aussi rare, aussi heureuse et aussi nouvelle. Fou je suis et fou je resterai, jusqu'à ce que tu reviennes avec la réponse à une lettre que je pense faire pour Madame Dulcinée. » Que penser d'un fou qui déclare qu'il est fou? D'un fou qui affirme qu'il a décidé d'être fou et qu'il le restera tant qu'il n'aura pas eu la réponse qu'il attend? Un fou véritable est-il capable de prendre ses distances vis-à-vis de sa folie, au point de parodier sa propre folie? Certainement pas. Au moment où il semble être le plus prisonnier de sa manie, Don Quichotte est libre de choisir sa folie et il parle depuis une clairvoyance et une lucidité supérieures. Il parle au nom de sa raison et de sa sagesse. Et pourtant, il est fou en ce qu'il associe un déni de raison à son libre choix de faire le fou. Il fera le fou, en effet, en dénudant le bas de son corps et en faisant des cabrioles qui lui mettront la tête en bas et les pieds en l'air, découvrant ainsi à Sancho épouvanté ses parties honteuses. Son exhibitionnisme de clown, mollo, se poursuivra d'ailleurs au chapitre suivant, dans lequel, se rappelant qu'Amadis, pendant sa pénitence à la roche pauvre, avait prié et s'était recommandé à Dieu, il se fabrique un chapelet avec les pans de sa chemise et dit « 1 000 000 d'Ave ». Conclusion. La liberté de Don Quichotte est sans nul doute celle du bouffon et celle du fou. On oublie trop souvent que dans l'extraordinaire chapitre 3 de la deuxième partie, où se fait la critique de la première partie et où les personnages prennent un relief de personnes vivantes et vraies, Don Quichotte lui-même fait l'éloge et du rire et du bouffon, comme s'il assumait et justifiait à son insu son rôle paradoxal de fou lucide, sensé et extravagant. Dire des bons mots ou écrire des plaisanteries est le propre des grands esprits. Dans une comédie, le bouffon est certainement le personnage le plus fin de la pièce, car celui qui veut se faire passer pour un sot doit être loin de l'être. Il ne faut pas oublier non plus que l'époque de Cervantes résonne de l'éclat de rire de la Renaissance. Bocace, Rabelais, Shakespeare, qu'Erasme a composé son éloge de la folie, que la cour est pleine de ses bouffons, conseillers du prince parfois, dont Velázquez a laissé les portraits, que la tradition carnavalesque sème l'effroi et le rire, que les gentilshommes font circuler partout des historiettes drôles et que le deuxième Quichotte s'ouvre sur des contes de fous. Erasme n'a-t-il pas dit « Rien n'est plus sot que de traiter avec sérieux des choses frivoles, mais rien n'est plus spirituel que de faire servir les frivolités à des choses sérieuses. » Plus près de nous, Bakhtine fait du rire la clé de toute libération, scientifique ou esthétique. Je le cite, « Le rire est un facteur essentiel pour créer cette prémisse indispensable à toute approche réaliste du monde. En rapprochant, en familiarisant l'objet, le rire semble le confier aux mains intrépides de l'expérience, tant scientifique que littéraire, et de l'imagination qui expérimente librement et sert cette expérience. La familiarisation du monde par le rire et le parler populaire représente une étape majeure et nécessaire sur la voie de la création des œuvres libres, aussi bien celle de la connaissance scientifique que celle de l'art et de la réalité, création de l'humanité européenne. La raison que pointe la liberté de Don Quichotte n'est pas encore celle du cogito, mais une raison morale, comme le montre l'éloge de l'acte gratuit qu'il prononce après l'épisode des lions dont il a fait ouvrir la cage et qui ont dédaigneusement refusé le combat. « Il me revenait de droit d'attaquer les lions que je viens d'attaquer, tout en sachant que c'était faire preuve d'une témérité excessive. Car je sais fort bien ce que c'est que le courage. C'est une vertu placée entre ces deux vices extrêmes que sont la lâcheté et la témérité. Mais c'est un moindre mal quand on est courageux que de s'élever jusqu'à être téméraire plutôt que de s'abaisser à être lâche. » De même, la réponse qu'il fait à l'ecclésiastique « De ceux, écrit Cervantes, qui veulent que la grandeur des grands ait pour mesure la mesquinerie de leur esprit », cet ecclésiastique qu'il a traité de « pauvre cruche » oppose-t-elle le confort des hypocrites et des serviles aux difficultés de ceux qui décident librement d'obéir à la raison morale, fût-elle dictée par une chevalerie errante, morte et enterrée ? Certains parcourent le vaste champ de l'ambition et de la superbe, d'autres prennent le chemin de la flatterie servile et basse, d'autres encore celui de la trompeuse hypocrisie et quelques-uns celui de la vraie religion. Mais moi, guidé par mon étoile, je vais par l'étroite sente de la chevalerie errante dont l'exercice me fait mépriser les richesses, mais non pas l'honneur. J'ai lavé des affronts, redressé des torts, châtié des insolences, vaincu des géants et mis des monstres en déroute. Je suis amoureux, il est vrai, mais seulement parce que c'est une obligation pour les chevaliers errants de l'être. Mes intentions s'acheminent toujours à une bonne fin, faire du bien à tous et ne faire du mal à personne. Si celui qui pense de la sorte, si celui qui agit ainsi mérite d'être qualifié de sot, je laisse à vos grandeurs, ducs et duchesses excellents, le soin d'en juger. Grand lecteur et fan du Quichotte, Milan Kundera n'hésite pas à rapprocher Descartes et Cervantes. En effet, je le cite, « Pour moi, le fondateur des temps modernes n'est pas seulement Descartes, mais aussi Cervantes. Comprendre avec Descartes l'ego pensant comme le fondement de tout, être seul ainsi en face de l'univers, c'est une attitude que Hegel, à juste titre, jugea héroïque. Comprendre avec Cervantes le monde comme ambiguïté, avoir à affronter au lieu d'une seule vérité absolue, un tas de vérités relatives qui se contredisent, vérités incorporées dans des égos imaginaires appelés personnages, posséder donc comme seule certitude la sagesse de l'incertitude, cela exige une force non moins grande. Don Quichotte partit pour un monde qui s'ouvrait largement devant lui, il pouvait y entrer librement et revenir à la maison quand il voulait. La liberté de Don Quichotte, enfin, c'est celle du roman dont il signe l'acte de naissance. Une Marthe Robert, plus inspirée par les origines du roman que par le roman des origines, je reprends son titre, écrit ces belles phrases qui vont mettre le point final à cette longue mais tout à fait incomplète exploration de la liberté de Don Quichotte. Le Don Quichotte est sans aucun doute le premier roman moderne, si on entend par modernité le mouvement d'une littérature qui, perpétuellement en quête d'elle-même, s'interroge, se met en cause, fait de ses doutes et de sa foi à l'égard de son propre message le sujet même de ses récits. Et lorsqu'elle évoque la liberté du roman, n'a-t-on pas l'impression de voir passer l'ombre impérieuse, mais risible, du grand Don Quichotte, qui savait bien qu'il dépendait des autres et proclamait la liberté au risque de devenir lui-même tyrannique, le don le plus précieux. Dernière citation, genre révolutionnaire et bourgeois, démocratique par choix et animé d'un esprit totalitaire qui le porte à briser entraves et frontières, le roman est libre, libre jusqu'à l'arbitraire et au dernier degré de l'anarchie. Paradoxalement toutefois, cette liberté sans contrepartie n'est pas sans rappeler beaucoup celle du parasite, car par une nécessité de sa nature, il vit tout à la fois aux frais des formes écrites et aux dépens des choses réelles dont il prétend rendre la vérité. Et ce double parasitisme, loin qu'il restreigne ses possibilités d'action, semble accroître ses forces et reculer encore ses limites. Et je termine, merci.